Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Auditeurs et auditrices, bonjour. Plus besoin de vous présenter très à table. Comme vous le savez, les éditions Pocket publient chaque fin d'année désormais un recueil de nouvelles au profit des Restos du Cœur. L'édition 2025 a pour thème « Tous dans le même bateau ». Au propre comme au figuré, cette expression a inspiré 14 auteurs ou autrices, de Sandrine Collette à Jacques Ravenne, en passant par Marie-Hélène Lafont ou Marc Lévy. Nous avons choisi pour vous le texte de Jacques Ravenne, intitulé « Victor ».
Thank you.
Quand on monte dans un bateau, ce n'est jamais le même pour personne. Paris, de nos jours, cimetière du Père-Lachaise.
Guilhem tendit les bras vers le ciel. Il sentait la crampe venir. C'était son sixième groupe de touristes de la journée et il n'en pouvait plus. Heureusement, c'était des jeunes cadres britanniques. Cela faisait 3 jours qu'ils visitaient Paris au pas de charge, faisaient la fête toutes les nuits et eux aussi étaient lessivés. Pourtant, Guilhem ne comptait pas leur épargner sa tombe préférée. De celle-là au moins, il était sûr qu'ils se souviendraient.
Et pour finir en beauté, nous allons aller visiter la sépulture la plus célèbre du Père Lachaise.
Un murmure de protestation monta du groupe.
Mais on a déjà visité la tombe de Jim Morrison.
De la Calas. De Proust.
Et même celle d'Alan Kardec, s'écria une voix épuisée. Ce type qui parlait avec les morts, vous nous avez même dit que c'était la tombe la plus visitée.
Mais pas la plus célèbre.
Il cligna de l'œil et montra une allée sur la gauche.
Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. En plus, elle est juste à côté.
Ce dernier argument convainquit le groupe. Au bout de quelques pas, ils aperçurent une tombe basse surmontée d'une sculpture en bronze verdi. Un homme, jeune encore, les vêtements défaits, les cheveux épars.
Je ne vois vraiment pas ce que cette tombe.
Le guide pointa son index.
Et si vous regardez là?
Un cri unanime jaillit.
Oh my God!
Guilhem sourit. Il avait gagné son pari.
Et maintenant, je vais vous raconter son histoire.
Paris, 10 janvier 1871.
Comme il sautait du marchepied de la voiture sur le pavé de la place des Petits Pères, Victor remonta le col de sa redingote. La bise qui jaillissait de la rue Notre-Dame fit frémir ses moustaches, qu'il portait drues et tombantes, pas comme cette vieille taupe de Napoléon III, dont les bas-cantes impeccablement cirées pointaient vers le ciel. Victor, ardent républicain, détestait l'empereur. Un aventurier, un paltoquet, un escroc qui s'était servi du nom de son oncle pour se hisser au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Tout ce que détestait Victor, journaliste au pilori, un brûlot républicain qui, pour affirmer ses convictions politiques, imprimait sa prose incendiaire en lettres rouges sur papier blanc. Mais Victor ne haïssait pas que l'empereur. Il détestait aussi la religion qui fanatisait et les prêtres qui abêtissaient. La vue d'une croix le rendait pâle de colère. Celle d'une soutane, rouge d'indignation. Autant dire que sur cette place, cernée de boutiques toutes spécialisées en bandieuserie, il frôlait la crise cardiaque. Déjà, Victor lançait un regard sombre vers une devanture envahie de bénitiers et de crucifix. Un, en particulier, attisait sa vindicte. Un somptueux crucifix en ébène, où un Christ au visage extatique se pâmait de douleurs salvatrices.
Regarde-moi cette horreur. Comment peut-on célébrer un pareil instrument de torture où on a cloué un homme ?
Son confrère Ulrich de Fonvielle haussa les épaules. Quoique ardent républicain lui aussi, il était bien plus modéré que Victor.
D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ce prophète de Galilée serait le seul à avoir sa sculpture après sa mort. Tiens, je te fais mon exécuteur testamentaire. Si un jour il m'arrive malheur, je veux que l'on fasse un gisant sur ma tombe, exactement dans l'état où je serai mort.
Ulrich éclata de rire. Décidément, Victor, malgré ses outrances, ne manquait pas d'humour.
Je te le promets. En attendant, il montra l'église en face d'eux, nous avons un article à écrire. Église Notre-Dame des Victoires.
Regarde-moi ce temple de la superstition.
D'un air dégoûté, Victor Noir montrait les murs d'une chapelle entièrement couverte d'ex-voto. Dans un langage extatique, on y remerciait le ciel d'avoir réduit une entorse, guéri un rhumatisme, soulagé un torticolis ou liquidé un furoncle. À croire que, sur son trône céleste, Dieu passait son temps à jouer les rebouteux.
Mais quelle bêtise, quelle imposture, quelle honte pour la dignité humaine.
Et encore, tu n'as rien vu, ricana Ulrich en le poussant de l'épaule vers une autre chapelle dont les ex-voto grimpaient en colonne de louanges jusqu'au plafond.
La colère de Victor fit place à la stupéfaction. Par centaines, des femmes remerciaient Dieu, et surtout la Vierge, du plus grand, du plus beau, du plus intense de tous les miracles, les avoir rendues mères.
« Ce n'est pas possible !» balbutia le journaliste. « Toutes ces femmes ne croient quand même pas que c'est l'épouse d'un charpentier, vierge de surcroît, qui les a fait tomber enceintes. »
Tu oublies que nous sommes dans une église dont la légende dit qu'elle a été construite par une reine de France, Anne d'Autriche, pour remercier le ciel de lui avoir donné un fils, le futur Louis XIV, après 23 ans de mariage infécond avec Louis XIIIe du nom, dont on sait bien qu'il n'était guère gaillard au lit.
Ce petit cours d'histoire n'eut pas l'air de dérider Victor Noir.
Tu ne vas pas me faire croire qu'aujourd'hui, en plein siècle de la raison, on croit encore à pareille absurdité.
Rends-toi compte par toi-même.
À droite de la nef, une vaste chapelle était illuminée par une mer houleuse de cierges. On avait l'impression d'une forêt en train de brûler en offrande à la statue de la Vierge qui brillait comme une pierre précieuse. À ses pieds, prosternés, agglutinés, des femmes, mains jointes et regards implorants, suppliaient la mère du Tout-Puissant de leur donner la grâce de devenir enfin mère.
« Je n'y crois pas !» s'écria Victor. « C'est de l'hystérie collective !»
Et encore là, elle se contente de prier. Mais dès que le curé a le dos tourné, ses exaltés se précipitent sur la statue de la Vierge et lui caressent frénétiquement le pied droit. D'après la légende, c'est un moyen infaillible de tomber enceinte.
Pour Victor, c'en était trop. Il avait toujours été impétueux et craignait ses propres emportements.
Si je reste un instant de plus dans cet antre de la superstition, je vais faire un malheur. Sortons.
Sur le parvis, les deux journalistes allumèrent un cigare. Comme ils tiraient leur première bouffée sous le soleil pâle d'hiver, une mendiante courbée par les ans monta les marches et tendit la main.
« Mais bon messieurs, la charité, Dieu vous le rendra !»«
Manquez plus que celle-là !» s'écria Victor.
Plus humain, Ulrich tira une pièce de son gousset et l'attendit à la vieille qui lui saisit le poignet.
« Pour te remercier, je vais lire les lignes de ta main. »
Ulrich déclina.
« Fais-le plutôt à mon ami, il ne craint ni Dieu ni le diable. »
Victor présenta sa paume droite ouverte. D'un doigt calleux, la mendiante suivit lentement la ligne de vie. Noir eut une sensation désagréable, comme si on fouillait tout au fond de lui.
« Dépêche-toi, la vieille !»«
Tu es un homme dont on parlera longtemps. Ton souvenir traversera les siècles. »
Le journaliste haussa les épaules, toujours la même rengaine que ces radoteuses servaient à la crédulité de leurs clients.
« Tu me promets la gloire, la vieille ?»«
Oui, mais pas celle que tu crois. »
Victor éclata de rire. Cette prophétesse était ridicule, et pourtant son regard brillait étrangement.
« Ce dont tu t'es moqué aujourd'hui, demain tu en seras l'apôtre. »
Le journaliste haussa les épaules de dédain.
« Aucune chance. Allez, maintenant filons. On nous attend au journal. »
Comme les deux amis descendaient les marches, la devineresse fit le signe de croix. Elle venait de voir son premier mort de la journée.
Journal Le Pilori.
D'habitude, la salle de rédaction bruissait comme une ruche au printemps. Accoudés à leur bureau, des journalistes rédigeaient à la hâte leur article promis depuis des jours. Des commis fébriles couraient en tous sens pour apporter de la copie à l'imprimerie. Parcourant les allées, le rédacteur encourageait ses troupes, hurlant des menaces de renvoi ou chuchotant des promesses de gratification. Mais cette fois, il n'y avait ni cris, ni journalistes, ni rien. Stupéfaits, Ulrich et Victor se dirigeaient vers le bureau du rédacteur. À l'intérieur, toute la direction du journal était réunie, accablée et silencieuse, les visages aussi fermés qu'un cercueil.
« Parbleu !» s'écria Victor. « On dirait qu'on vous a tous condamnés au peloton d'exécution. »«
Nous, non, » répliqua le rédacteur d'une voix lugubre. « Mais un de nos collègues, oui. » Il vient d'avoir un grave différend d'honneur et va devoir se battre en duel.
Ulrich se figea. Les duels étaient la plaie, sans cesse rouverte, du journalisme parisien. Pas une semaine sans qu'on s'insulte, se provoque, pour finir par échanger des coups d'épée au bois de Boulogne. Et chaque mois, on enterrait un confrère au Père-Lachaise.
Il nous faut deux volontaires pour lui servir de témoin. annonça le rédacteur.
Victor avait toujours parlé plus vite qu'il ne pensait. S'il n'y a que ça, Ulrich et moi sommes vos hommes. À qui faut-il porter le cartel ?
Avant de se retrouver sur le pré pour régler l'offense dans le sang, on envoyait d'abord des témoins pour discuter des conditions du duel. Au pistolet ou à l'épée, au premier sang ou à mort. Le rédacteur toussa.
Vous allez devoir aller chez le prince Pierre Bonaparte.
Le cousin de l'empereur ? S'étrangla Ulrich, qui maudissait Victor de l'avoir entraîné malgré lui dans cette folie.
Lui-même, et vous connaissez sa réputation.
Cette fois, même Victor ne faisait plus le fanfaron. Dans la famille impériale, Pierre Bonaparte passait pour l'irrécupérable de service.
Il a bien fait de la prison en France, s'inquiéta Ulrich.
Oui, avant d'assassiner un policier en Italie, répliqua le rédacteur. Son premier meurtre.
Il y en a eu d'autres ?
Oui, un passant, tué en pleine rue à New York.
Ulrich osa une autre question.
Il n'y a pas eu aussi une affaire à Corfou ?
Oui, mais comme il a tiré dans le tas, on ignore le nombre de victimes.
Victor Noir était sidéré de sa propre bêtise. Comment avait-il pu se mettre dans un pétrin pareil ?
Écoutez, reprit le rédacteur, voilà ce que je vous propose. Vous porterez une lettre proposant les conditions du duel à son domicile. Vous la remettrez au portier. Ainsi, vous n'aurez pas à lui parler. La voici, elle est prête, l'adresse est sur l'enveloppe.
Ulrich s'en empara aussitôt. Plus vite il porterait ce pli de malheur, plus vite il rentrerait vivant.
« Du moment qu'on ne croise pas ce maudit cousin de l'empereur, » ajouta Victor pour se rassurer. « Aucun risque, » proclama le rédacteur. « Et comme vous êtes partie prenante de cette histoire en tant que témoin, je compte sur vous deux pour me faire un beau papier. Je vois déjà le titre. « Le duel de l'année. »
Ulrich fit la grimace. Le rédacteur avait déjà oublié qu'un cadavre allait sans doute ponctuer ce duel.
« Allez, dépêchez-vous. Je vous veux ici dans une heure, prêt à m'écrire un article. »
Rue d'Auteuil.
En descendant de la voiture, Victor et Ulrich furent rassurés par la tranquillité de la rue. Les hôtels particuliers aux façades cossues, les cours arborées parsemées de fleurs, les servantes silencieuses qui portaient des paniers à linge. Dans ce monde feutré de la haute bourgeoisie, rien ne semblait devoir arriver. Ulrich montra une grille que refermait un domestique.
C'est le domicile du prince. On donne la lettre de cartel au larbin et on disparaît.
Avant même que Victor ait réagi, Ulrich tendit la missive au domestique qui portait une livrée aux armes de Napoléon.
Voici pour votre maître, à lui remettre dans les plus brefs délais.
Si c'est pressé autant que vous le fassiez vous-même, le prince est là dans sa calèche, il s'apprête à partir.
Ulrich n'eut pas le temps de l'arrêter que le valet hurlait en direction de la voiture.
« Monseigneur, un message urgent pour vous !»
Dans la calèche, une silhouette massive écrasée sous un haut chapeau leur fit signe d'avancer. « Que me voulez-vous ? » Ulrich s'inclina avant de répondre d'une voix qui s'embrouillait déjà.
« Monsieur, nous venons vous demander vos conditions pour une rencontre. En effet, un de nos amis s'est estimé offensé de la teneur de vos propos et exige réparation par les armes. »
« Vous venez me provoquer en duel ?» s'exclama le prince.
« Pas nous, mais notre ami. »«
Je m'en fous bien de votre ami. Vous savez qui je suis ?»«
Monseigneur, » chuinta Ulrich, « nous ne sommes que d'humbles messagers. »«
Vous m'offensez, messieurs, c'est une honte. Vous allez m'en rendre raison. Et lui ?» Le prince se tourna vers Victor, changé en statue de sel. « Pourquoi il ne dit rien ? Il est devenu muet ? Je m'en vais le réveiller, moi. » Saisissant le fouet par la lanière, il donna un coup de manche en travers du visage de Noir. Depuis sa jeunesse, Victor avait toujours été écœuré par l'injustice. Toutes les humiliations qu'il avait subies, lui, le fils d'artisan, lui revinrent à la gorge. Jusqu'ici, il avait combattu les préjugés uniquement par le pouvoir des mots, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffirait jamais, en fait. Seule la violence pourrait faire taire la violence. Il recula d'un pas et leva le bras. La gifle atteignit le prince à la tempe.
Son chapeau vola dans les airs et le prince roula sur le sol du cabriolet. Quand il se redressa, son visage défait marquait la surprise la plus totale. On avait osé le frapper. Lui qui était de sang impérial, lui qui portait un nom illustre. C'était incompréhensible. Jamais personne ne s'était risqué à lever la main sur sa personne. En un instant, toutes ses certitudes vacillèrent. Tout l'ordre social était menacé s'il ne réagissait pas. Un homme de rien l'avait frappé. Un sacrilège. Eh bien, il allait le renvoyer à son néant. Le prince se redressa, fixa Victor, qui semblait stupéfait par son geste, saisit un pistolet sous sa redingote et tira. Deux fois, en pleine poitrine.
Rue Desgenettes, 7e arrondissement.
L'atelier du sculpteur Jules Dalou était célèbre dans tout Paris. Collectionneurs avisés, artistes débutants, tous s'y pressaient, tentant de découvrir à travers les innombrables essais de sculptures encombrant les étagères, quelle serait la prochaine œuvre du maître. Travailleur impitoyable, Dalou multipliait les esquisses en argile, les ébauches en plâtre, avant de se décider à dévoiler une de ses sculptures monumentales qui faisait sa réputation. S'il ouvrait sa porte à tous les visiteurs, Dalou rayonnait de plaisir quand il recevait un de ses amis politiques. Aussitôt, il ouvrait une armoire discrète et en sortait une bouteille d'absinthe. Devant son visiteur ravi, il posait une cuillère percée sur le verre, y plaçait un sucre et versait dessus la liqueur qui se transformait en un sirop puissamment alcoolisé. Ensuite, le regard concentré, il versait l'eau, mais très peu, pour que le breuvage fasse son plein effet. Un cérémonial qui enchantait tous ses amis, à commencer par Ulrich de Fonvielle, venu lui rendre visite.
Et si vous me disiez comment s'est passé l'enterrement de ce pauvre Victor ? Demanda le sculpteur.
Ulrich posa son verre.
Un triomphe, une véritable apothéose. Plus de 100 000 Parisiens ont suivi le cortège funéraire de Victor. Durant tout le trajet, la Marseillaise a été chantée à pleine poitrine. Il s'en est fallu de peu que le peuple ne franchisse la Seine pour renverser l'empereur, retranché, les moustaches tremblantes, dans son palais des Tuileries.
Dalou rougit de plaisir. Républicain convaincu, il espérait la chute du régime impérial depuis des années.
Croyez-moi, notre ami Victor n'est pas passé de vie à trépas pour rien, reprit Ulrich. Sa mort est l'étincelle tragique qui fera advenir le soleil glorieux de la République.
Enthousiasmé, le sculpteur vida son verre d'un coup.
Et je vais vous dire mieux, dans 100 ans, tous les écoliers de France apprendront que la République est advenue grâce au sacrifice de Victor Noir. Son nom sera immortel.
Les larmes vinrent aux yeux du sculpteur, mais il ne savait plus si c'était l'émotion ou l'absinthe but trop vite. Brusquement, Ulrich se leva et posa la main sur son cœur. Lui aussi avait vidé son verre.
Jules Dalou. Le matin même de sa mort, Victor Noir m'a chargé d'exécuter ses dernières volontés. Il m'a demandé que soit posé sur sa tombe un gisant le représentant précisément au moment de sa mort.
Subitement décrisé, Dalou se frotta les yeux. Sculpter un cadavre ? Un cadavre qui avait pris 2 balles dans le corps ?
Jules Dalou, au nom de l'amitié et de la République, êtes-vous prêt à m'aider à respecter cette promesse sacrée ?
Le sculpteur se dit qu'il n'aurait jamais dû servir d'absinthe à ce maudit journaliste. Certes, l'assassinat de Victor Noir l'avait touché, mais de là à faire sa sculpture, mort en plus. On avait beau être républicain, on avait aussi son plan de carrière. En faire un gisant d'un dualiste involontaire n'en faisait pas partie.
Ce serait un honneur, mais ce pauvre Victor est au fond de sa tombe. Je ne vois pas vraiment comment je peux le représenter à l'instant précis de sa mort violente.
Ulrich lui posa la main sur l'épaule.
Juste après sa mort, nous avons fait réaliser plusieurs dessins précis de son corps, ainsi qu'un moulage de son visage. Tout est à votre disposition si vous le souhaitez.
Dalou comprit qu'il n'échapperait pas à son destin. Il allait devenir le sculpteur officiel de Victor Noir, qu'il le veuille ou non. Désormais, tous deux étaient dans le même bateau. Ils n'avaient plus le choix.
Ulrich de Fonvielle, j'accepte la mission.
Impasse du Maine, 15e arrondissement.
Jules regarda le calendrier. On était bien le 15 octobre, le jour où Ulrich devait lui rendre visite. De l'eau sous les ponts était passée depuis qu'il lui avait donné commande du gisant de ce malheureux Victor Noir. Depuis, l'Empire s'était effondré. La République lui avait succédé et lui, Jules Dalloux, était devenu le sculpteur officiel du nouveau régime. Il croulait sous les commandes. On se pressait à la porte de son nouvel atelier dans le quartier Montparnasse. Chaque jour, on le suppliait de faire un buste à nu. Il était devenu célèbre, et tout ça, grâce à Victor Noir. Dès que le bruit s'était répandu qu'il avait accepté de faire sa sculpture, toute la ville s'était électrisée. Les journaux en avaient parlé, les députés en avaient débattu. Politiciens, artistes, journalistes, tous attendaient de découvrir le gisant du martyr de la République. D'ailleurs, une cérémonie officielle allait avoir lieu au Père-Lachaise. Là, devant tout Paris, Dalloux dévoilerait son chef-d'œuvre attendu par tous. On frappa à la porte de l'atelier. Vêtu avec élégance, Ulrich entra. Depuis que l'Empire n'était plus qu'un souvenir, le journaliste, lui aussi, était devenu à la mode. On se l'arrachait dans les salons et les salles de rédaction. Il était l'homme qui avait assisté à la mort de Victor Noir. Le témoin privilégié, l'ami essentiel. Il ne se rappelait même plus le nombre de fois où il avait raconté son assassinat.
« Alors, mon ami, vous avez terminé ce gisant ?»
Dalloux hocha la tête.
« Oui, il est dans la pièce à côté. »
Curieusement, le sculpteur ne semblait pas pressé de montrer son œuvre.
« Je suis certain que votre talent a transfiguré Victor. » Que vous avez fait de son martyr un chef-d'œuvre, que vous avez...
En fait, il y a un léger problème.
Ulrich redescendit brutalement sur terre. L'inauguration était dans quelques jours à peine, et il avait déjà vendu son récit à 3 journaux. Il balbutia.
Quel problème ?
Jules le prit par le bras.
Vous allez comprendre.
Allongé contre un mur, la sculpture était recouverte d'un long drap blanc. Dalloux remonta le tissu et dégagea le visage. Saisi, Ulrich recula. C'était bien Victor, ses cheveux épars, ses lèvres entrouvertes sur la mort.
« Mon Dieu !» s'exclama le journaliste. « C'est lui, c'est bien lui !»
Le sculpteur dégagea encore le tissu. Tout y était. Le gilet défait, la chemise entrouverte, où la première balle avait frappé.
« Un chef-d'œuvre ! Vous avez réalisé un chef-d'œuvre !» s'écria Ulrich.
« Ne vous emballez pas !» répliqua Dalloux. Et d'un geste sec, il retira la totalité du drap.
D'abord, Ulrich resta muet, puis il s'approcha pour mieux voir, comme s'il était victime d'une erreur de perspective.
« Ce n'est pas possible !»
Le sculpteur secoua la tête.
« Vous m'avez demandé, je vous cite, de le représenter précisément au moment de sa mort. Or, comme vous le savez, dans le cas de certaines morts violentes, il y a parfois une réaction anatomique. »
Ahuri, abasourdi, Ulrich se pencha encore une fois. Il n'en croyait pas ses yeux. Sous le pantalon du mort, une bosse éclatait insolente, impérieuse. Une véritable provocation. Il n'y avait aucun doute, Victor se tapait une érection d'enfer.
Cimetière du Père-Lachaise, inauguration du monument de Victor Noir.
Les discours officiels venaient de se terminer. Un à un, les ministres, les députés, tous vêtus de noir, venaient s'incliner devant la tombe de Victor. À la vérité, la plupart se moquaient bien de la mort du journaliste. En plus, cette mort n'avait rien de glorieux. Se faire descendre comme un pigeon et pour un duel qui n'était pas le sien. En fait, ce Victor était un crétin. Mais la République avait besoin de martyrs et il était parfait pour ce rôle. À l'écart, Ulrich, lui, avait du mal à dissimuler son émotion. Il se repassait un à un les événements de cette funeste journée. Par quel fatal enchaînement en était-on arrivé là? Et si Victor n'avait pas bêtement accepté d'être témoin? Et s'il n'avait pas croisé le prince? Et si ce maudit Bonaparte n'avait pas été armé? Et s'il n'était pas allé dans l'église Notre-Dame des Victoires, où la superstition partout présente avait énervé Victor? Et si c'était pour ça qu'il s'était porté volontaire pour être témoin? Ulrich ne le saurait jamais. Heureusement, personne pendant la cérémonie n'avait semblé remarquer la protubérance qui déformait son anatomie. Ulrich, lui, n'avait vu que ça. Comme il s'apprêtait à partir, il songea à la vieille mendiante, cette diseuse de bonne aventure qu'ils avaient croisée sur le parvis de l'église le matin du drame. Qu'avait-elle dit déjà? Ah oui, que le souvenir de Victor traverserait les siècles. En revanche, pourquoi avait-elle ajouté « Ce dont tu t'es moqué aujourd'hui, demain tu en seras l'apôtre ». Ulrich haussa les épaules. La seule chose dont Victor se soit moqué, c'était de ces malheureuses qui, en caressant une statue de la Vierge, croyaient devenir mère. Une superstition imbécile. Aucun rapport avec Victor. Ulrich sourit. Décidément, cette vieille était folle.
De nos jours,
Guilhem s'accroupit près de la tombe de Victor Noir. Si toute la sculpture était d'un verre de bronze, en revanche, l'entrejambe du journaliste brillait comme de l'or en barre.
« On dirait qu'on vient de la lustrer !» s'écria un des touristes stupéfaits.
« Vous ne croyez pas si bien dire. Depuis plus d'un siècle, on vient du monde entier pour toucher ce gisant. »«
Mais pourquoi ?»«
Parce que la légende veut que si une femme touche le membre en bronze de Victor Noir, elle tombera immanquablement enceinte. »
Parmi les touristes sidérés, un jeune couple échangea un regard furtif.
Mais c'est une superstition.
Qui sait? Tapez Victor Noir sur Google, vous verrez. Mais prenez votre temps, il y a plusieurs millions de réponses.
Fasciné, le jeune couple contemplait le corps en bronze de ce journaliste assassiné dont il n'avait jamais entendu parler. Guilhem baissa la voix.
Je vais vous confier un secret. Si une femme veut être certaine de tomber enceinte dans l'année, ce n'est pas avec la main qu'il faut... Enfin, vous me comprenez. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de femmes en jupe par ici.
Un immense éclat de rire salua cette repartie.
Allez, il est temps de quitter Victor Noir et le Père Lachaise. Direction la sortie.
Sur le parvis du cimetière, Guilhem compta les participants à sa visite. Il en manquait deux. Souvent, c'était plus. Pas la peine de les chercher. Il savait où ils étaient. Dans quelques mois, il recevrait peut-être un mail d'Angleterre. Il le rangerait avec tous les autres reçus d'Australie, du Japon et du Brésil. Des mails où il n'y avait jamais de message, mais toujours une photo. Un enfant qui souriait à la vie. Cette émission a été préparée par Guylaine et Annie, qui, avec Marie-Paul, ont aussi prêté leur voix aux différents personnages de cette nouvelle. Nous remercions Claude Michel pour le montage. Les plages musicales sont extraites de l'opéra de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes, danse du calumet de la paix. À très bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Le samedi 4 janvier, de 20h à 22h, Yann et Michel vous proposent une émission spéciale Nouvelle Année dans la chanson francophone afin de fêter la nouvelle année, la vie, l'amour, la joie. Retrouvez-nous le 4 janvier à 20h sur le 101.5 FM de Radio G ou via le DAB+ ou sur notre site internet www.radio-g.fr. À très bientôt.
Depuis plus de 40 ans, Radio G donne la parole aux Angevins et met en valeur son territoire. Aujourd'hui, comme de nombreux acteurs culturels, votre radio associative préférée est menacée par les coupes budgétaires. Avec ses émissions, une cinquantaine, ses bénévoles, ils sont 120, épaulés par 3 salariés et 3 jeunes volontaires en service civique. Et surtout vous, ses auditeurs, Radio G représente la richesse de notre cité et offre aux Angevins un espace d'expression libre et précieux. Ne laissez surtout pas cela disparaître. Aidez Radio G dans son fonctionnement et ses actions d'éducation aux médias en faisant un don à notre association sur le www.radio-g.fr. Cette participation sera déductible de vos impôts. Toute l'équipe de Radio G compte sur vous et vous souhaite de joyeuses fêtes.
Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi, un VTC ou un transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée.
Merci Axel, mon héros.
Utilisez un éthylotest avant de bien rentrer. Ou alors, on attend le lendemain pour bien rentrer.
Oh, trop moelleux ton canapé.
Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Chaque année, l'association Prévention Routière se mobilise pour des routes plus sûres. Pour soutenir son action, rendez-vous sur préventionroutière.asso.fr.
Belle âme, pour qui les feux ont brillé tout bas, à toi, pané, pané, pour là, qui chante à peine et toujours pas, bien droit. Tu vois qu'on n'a pas l'âme collée au corps, qu'on se tient tout encore au bord. Et sous les tourments debout, tu vas. Il y a mieux là-bas, au bout de rêve qui coulait dans le grand vide. Mêlée du temps.